Salut à tous, bienvenue dans Swing, l'émission de Journal du Golf sur l'équipe.fr et désormais sur vos écrans, canal 187 de Free, 193 de Bouygues. On est ravis de vous retrouver pour parler golf une nouvelle fois avec Sébastien Audoux, qu'on ne présente plus. Sébastien, comment ça va?
Très bien,
je suis ravi. Et Arnaud Thius de Journal du Golf.
Moi, on me présente, moi.
Toi, on te présente, ouais, exactement.
Bonjour, JP.
Parce que t'en imposes, donc faut te présenter. Messieurs, forcément, Sébastien est là. On est obligé de commencer cette émission par ce retour d'Anthony Kim, ce retour sur le Live Golf qui a fait un petit peu pchit. Arnaud l'avait dit, avait même prédit des scores 86. Voilà.
Mais j'avais dit comme
qui n'ont pas eu lieu. Hein.
Ouais, ouais. Il a fini dernier, on se coupe derrière tout le monde.
Il a fini dernier dans un champ quand même extrêmement réduit. Hein. Donc,
raison de plus.
Donc, plus 16, dernier. On a vu un florilège de coups pas terribles, des grades, des tops, des sockets.
Un florilège, oui, mais là j'ai l'impression quand on vous écoute qu'il a fait que des
slices. Il finit dernier, quand même plus 16.
Il finit dernier, ok, mais je veux dire, il a pas non plus. Hein, c'était pas indécent hein, son niveau de jeu. Et pardon, mais il y a vraiment des gens qui attendaient qu'il joue 65, qui visent la gagne là, en tête à tête avec Ram après 12 ans sans golf de haut niveau dans des compétitions. Non, moi franchement.
C'est une bonne nouvelle pour toi ce retour d'Anthony Kim, Sébastien. On l'avait annoncé hein, dans ce podcast d'ailleurs il y a quelques années, l'année dernière ou même l'année d'avant, quand le Live démarrait. On se dit, mais c'était taillé pour un retour d'Anthony Kim. Là, oui. Ça a eu lieu, mais pas comme on l'espérait. Quoi.
Alors, vous savez, moi je suis toujours je suis entre les lovers et les haters. Hein. Je choisis le juste milieu. Content de voir Anthony Kim, oui, évidemment. Je le disais avant cette émission, pendant des années, je rêvais de faire un documentaire comme celui à la recherche de l'artiste Rodriguez, là, Searching for Sugar Man, parce que c'était presque aussi Rodriguez. Mystérieux. Donc le revoir jouer au golf, oui, c'est plaisant. C'est un golfeur qui est hyper attachant et auquel beaucoup de gens sont attachés. Enfin, je voyais même Romain Langasque hein, qui postait sur Instagram pour dire à quel point il était content de voir
Anthony
Kim.
C'est tout le mythe Anthony Kim, la trajectoire qu'il a eue, le retour.
Voilà. Alors après, une fois la trajectoire, quand il s'est arrêté, c'était pas non plus un des plus grands joueurs de l'histoire du golf. Quoi. C'était non, un très bon joueur de golf.
Oui, enfin, il
avait
pas joué.
Effectivement du charisme. Voilà, mais bon, ce qui était bien chez Anthony Kim, c'était sa disparition. C'était ça qui était bien.
Oui,
une fois qu'il revient,
le mystère.
Voilà, c'est ça.
Effectivement, ça a ajouté. Je suis d'accord. Après, voilà, qu'il revienne au golf, c'est très bien. C'est très tard, on va pas se le cacher.
Je pense, les années sont passées par là.
Kevin Wallenkelberg, le directeur éditorial de nos confrères de No Laying Up, disait que ils auraient pas dû le lancer comme ça tout de suite. Ils auraient peut-être
avec le teaser, tout ça, à l'américaine.
Le teaser horrible. Bonjour les haters, je suis de retour. Enfin, complètement à côté de la plaque, comme malheureusement trop souvent au niveau éditorial avec le Live.
Je suis là pour botter des fesses, hein, il a dit.
Ouais, ça aussi ridicule.
Fermer des bouches.
Complètement ridicule.
Un peu loupé.
Je pense qu'il aurait été plus malin de dire Anthony Kim a signé avec le Live, il sera là en 2025. En attendant, on sort un documentaire où il raconte son histoire parce que c'est quand même ça qu'on a envie de savoir. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 12 ans?
Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête?
La fête, apparemment.
La fête, mais je pense pas qu'il y a que ça. Enfin voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses peut-être difficiles à raconter pour lui, mais qu'on a envie de connaître. Et ça aurait été, à mon sens, beaucoup plus malin. Ça lui aurait mis moins de pression. Il aurait même pu traîner sur les tournois sans jouer, qu'il ait le temps de se préparer, qu'il ait le temps de revenir au contact de la compétition. Parce qu'entre taper des balles, ce qu'il a continué à faire visiblement un peu tout le temps, notamment dans son ancienne fac, où régulièrement les golfeurs le voyaient arriver le soir aux practices. Donc c'est pas comme s'il avait arrêté de golfer complètement. Mais je crois que là, on a un peu tout fait à l'envers. Il arrive, il raconte pas son histoire. Il le raconte pas toujours d'ailleurs maintenant. Donc il a joué un tournoi. Donc voilà, un peu déçu de.
Donc on a d'autres choses à découvrir d'Anthony Kim. On le rappelle, hein, il sera toute la saison sur le Live. Hein, il a une exemption pour toute l'année, peut-être pour après avoir un droit de jeu en 2025 dans une des équipes. On attend. Toi, t'attends un peu plus de savoir un peu plus de l'histoire d'Anthony Kim que le Live Golf aille creuser là-dessus.
Oui, j'attends ça. En plus, bon, je trouve que le système de wildcard, il est un peu bizarre. Soit vous faites un système de tournoi où c'est obligatoirement par équipe. Là, en plus, c'est un peu le truc solitaire, quoi. Il est là, bon, il joue en wildcard tout seul. Enfin, il joue pas tout seul, mais je veux dire, il est pas dans une équipe.
Il y avait une deuxième wildcard. Il y avait une deuxième wildcard. C'est un peu obscur.
De toute façon, le Live, c'est bancal. De toute façon, le Live, c'est bien.
Ça,
ils ont les moyens, ils ont les joueurs. Mais c'est bancal, tout leur système est bancal.
On peut penser, sans vouloir faire la mauvaise langue, que ils ont proposé une somme d'argent que Anthony Kim sans doute ne pouvait pas se permettre de refuser à ce stade de sa vie.
Qui correspondait à la police d'assurance, non de...
Bah, je pense que la police d'assurance, je suis pas un expert en assurance, mais de ce que j'ai pu dire, ça fait quand même longtemps qu'il est plus sur le tour. La police d'assurance, si elle est autour de 10 millions, il peut estimer que ça couvre ce qu'il a pas gagné pendant ces années-là. Hein. Donc voilà. Mais je pense qu'effectivement, voilà, c'est pas comme s'il avait des sources de revenus très importantes qui s'offraient à lui à ce moment-là. Entreprendre de l'argent garanti sur le livre et revenir sur le PGA Tour au risque, effectivement, là je vais rejoindre Arnaud, d'envoyer des 75 toutes les semaines et de ne pas passer les cuts, bah, effectivement, 80. Il vaut mieux revenir de sur faire, le livre.
C'est plus dans la, si, le PGA Tour, ça aurait été un retour plus dans l'anonymat. Finalement, là, sur le livre, il y a eu un gros coup. Un
non,
gros
non,
coup
non,
de buzz,
non, 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 non,
je crois
non,
pas,
ça aura pas
été
dans l'anonymat.
Public,
mais...
là, il est revenu à Jedi.
Ouais, mais là, il y a eu quand même un gros buzz de la part du livre. Ça sert au livre, mais aussi à Anthony Kim.
Il y aurait eu le même buzz sur le PGA Tour. Il y
aurait
même peut-être
plus, je pense, parce qu'il y aurait eu plus de public, il y aurait eu plus d'interaction avec les autres joueurs. Là, c'est quand même un peu frustrant. Enfin, on a l'impression qu'il est arrivé sur le complètement isolé des autres. On n'a pas vu la moindre interaction avec les autres joueurs. C'est d'ailleurs un truc qui je pense, est raté aussi sur le livre. C'est ils ont les joueurs sous contrat, ils font rien avec. Enfin, à part trois trucs complètement anecdotiques sur des features pendant le jeu où on les voit déguster du vin à Adélaïde ou des trucs complètement à côté de la plaque. Et là, c'est un petit peu pareil. Donc non, moi, j'en attends pas énormément, mais je suis content de le voir. C'est un joueur qui a fait, encore une fois, qui a enthousiasmé beaucoup de monde avec son charisme, avec son attitude très différente. Avec son attitude
qui a marqué les esprits.
Qui a marqué
arrivé,
les esprits. Ouais. Moi, je me souviens, j'ai commenté ses deux premières victoires hein, en 2008, au Wachovia et après au tournoi de Tiger au Congressional, au passage de parcours de majeur. Hein. Et en 2008, Tiger joue pas le Congressional parce que c'est après l'US Open, il est blessé et donc il le prend au téléphone. Et le coup de téléphone d'Anthony Kim qui est en train de signer des autographes et Tiger l'appelle et il. Enfin, je veux dire, à l'époque, Tiger, c'était quand même une figure très impressionnante. Hein. Bon, lui, il lui parle comme si c'était un vieux pote. Hey, salut Tiger, ouais, j'ai gagné ton tournoi, t'as vu ce que j'ai
avec
fait.
Cette
là.
Voix grave d'Anthony Kim, là, ouais.
Voilà, il avait cette attitude un peu différente. Le golf a besoin de ça. Hein. Le golf a besoin de ces personnages-là.
Oui, mais encore une fois, le golf a besoin de ces personnages-là. Mais quand il est parti pendant 10 ans ou 12 ans. Voilà, on voit bien que c'est trop tard, sa gloire est passée, son niveau est passé. Et on s'est interrogé pendant 10 ans qu'est-ce qu'il devenait. Bon, maintenant on le sait, il est là, son retour a fait flop et je pense que son retour va faire encore plus flop. Après, on est content d'avoir eu des nouvelles.
Ouais,
voilà.
Mais c'est là où,
mais
c'est
ça
là
peut
où...
pas, là, ça peut pas être pire. Il a fini dernier, on peut espérer des meilleurs résultats. On peut espérer des meilleurs résultats.
Encore
après,
une fois,
moi je pense pas qu'on va faire d'un cheval
mais,
de course.
Non, mais
de
vous, avez vu les,
course, hein.
Vous avez vu les scores des joueurs qui reviennent de blessure sur le PGA Tour, des Wills Zalatoris et compagnie. Quand ils reviennent, c'est catastrophique. Enfin, personne revient et envoie des 65. Hein. Et d'ailleurs, bon, même Tiger.
Vous voyez des scores sous le par cette année.
Cette année, oui, il va faire au moins un score sous le par, bien évidemment. Sans doute dès le prochain tournoi.
Il a fait des birdies déjà.
Non, mais honnêtement,
birdies,
moi
beaucoup.
J'ai regardé en longueur, j'ai même regardé le premier jour, j'ai regardé même le feed spécifique sur Anthony Kim, donc je peux vous dire, j'ai pas raté de coup de ce qu'il a joué. Alors, il y a des choses.
Bizarre.
Non, c'est pas bizarre, mais je veux dire. On voit que n'ayant pas vraiment évolué avec la technologie, il a beaucoup perdu à ce niveau-là. Hein. C'est-à-dire qu'il avait une des plus grandes vitesses de swing sur le tour lorsqu'il était sur le PGA Tour. Là, c'est plus du tout le cas. Il a la même vitesse qu'à l'époque, sauf qu'aujourd'hui, tout le monde, même les Padraig Harrington et compagnie, vont beaucoup plus vite. Donc, je pense que ça le pénalise.
Après, on peut imaginer la pression qu'il avait aussi, lui, avec des caméras de retour
bien
sur sûr, ses parties.
Bien sûr, mais je veux dire, il a fait des... Il
non,
a fait
non
des...
vous y croyez pas, vous.
Non, mais il a fait des approches qui étaient vraiment, vraiment d'une qualité assez étonnante. Moi, j'étais étonné. Il a fait 2-3 approches, notamment, je crois, sur le 4 ou le 5, pour sauver un par après avoir envoyé son second coup dans le décor. Et je me disais, waouh, honnêtement...
Il reste quelque chose. Quoi.
J'étais presque agréablement surpris. Hein. Moi, je ne m'attendais pas du tout...
Le golfeur qu'il était n'est pas mort. Quoi.
Non, et là où le golf aussi, c'est magique, c'est que c'est un des rares sports où vous pouvez faire une très longue traversée du désert et avoir une chance de revenir. Dans la plupart des autres sports, si vous avez une traversée du désert, c'est fini pour vous.
Et puis si vous revenez à 38 ans, c'est fini
et
pour vous.
Et je trouve que c'est aussi la beauté de ce sport. Je me souviens quand j'avais prédit que David Duval n'était pas fini et qu'il a fini deuxième de l'US Open en 2009, tout le monde se moquait de moi et c'était la beauté. Moi, j'étais
Personne
content.
Personne se moque de vous.
Et j'étais content de voir David Duval, qui est passé aussi par des moments très difficiles après sa victoire à l'Open en 2001, de pouvoir comme ça un peu revivre sur le tour. Je dis pas qu'Anthony Kim va faire la même chose, mais c'est aussi un de ces bonheurs qu'on peut avoir dans le golf et je pense qu'il faut
on
pas perdre son
même
plaisir
que dans le golf
Que dans le golf, exactement.
Alors justement, on retrouvera Anthony Kim sur le live dès cette semaine à Hong Kong. Évidemment, bah, on suivra ça avec, avec impatience. Victoire de Joachim Niemann la semaine dernière, deuxième victoire cette année. Il a reçu une invite d'ailleurs pour l'USPGA, Joachim Niemann, qui se plaignait un peu de son classement mondial, qui disait bah, que forcément, il n'a plus de points mondiaux avec le live. Ça ne voulait plus rien dire, ce classement mondial. D'ailleurs, le Leaf Golf qui a arrêté sa course aux points mondiaux.
Ouais, bah, en fait, ça montre
à quel point... C'est ridicule pour vous
Oui, c'est ridicule parce que
pour toi, Seb,
le classement mondial s'est dirigé par l'ensemble des tours, dont les quatre majeurs. Et lorsqu'il y a eu la dernière décision sur le Leaf, et pour le coup, je trouve que la décision est globalement assez logique, puisqu'effectivement, le Leaf n'a voulu se conformer à rien et pas faire le moindre effort pour essayer de trouver un arrangement avec le classement mondial. Donc, j'ai rien à dire là-dessus. Mais donc le PGA Tour et le DP World Tour se sont récusés. Ce sont donc les quatre majeurs qui ont voté sur oui ou non. Ils votent non et derrière ils sont obligés parce que bah, ils voient aussi leur intérêt. Ils disent bah Niemann, on peut pas ne pas l'avoir.
Ne pas se passer des meilleurs
pour le marché sud-américain parce que c'est un des joueurs les plus marquants en ce moment, surtout sur un début de saison par ailleurs assez terne. On a Niemann qui cartonne et donc bah le Masters l'invite il y a deux semaines. Là maintenant c'est le PGA qui l'invite. On balance des special invitations qui je trouve aussi moi, j'ai toujours eu un avis. Pour moi, les invitations spéciales, c'est effectivement, vous avez une légende du golf qui va arrêter et on lui donne une dernière invitation pour qu'il puisse dire au revoir. Ça, c'est les spéciales invitations.
Mais d'ailleurs, c'est ce qui se passe un peu. On en reviendra tout à l'heure. Mais
la dernière avant Niemann, c'était quoi la spéciale invitation à l'USPGA
À l'USPGA, j'avoue que je ne me souviens pas. Mais donc voilà. Donc.
C'est vraiment ça, parce qu'ils sont bien obligés.
Et même sur le PGA Tour, ce qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais sur ces Elevated Tournaments, il y a aussi, ça fait un peu du bruit parce que on peut inviter les organisateurs peuvent inviter un peu n'importe qui, quoi.
Bah voilà, mais c'est là où à mon sens, ça aussi, ça doit être pénalisant au niveau du classement mondial. Et tous les champs limités ne se valent pas. Je l'avais déjà expliqué, mais par exemple, le Tour Championship n'est pas un tournoi à champ limité qui pour moi a la même valeur qu'un Elevated Tournament. Le Tour Championship, c'est la finale, donc les semaines précédentes, on a éliminer des joueurs qui viennent de se qualifier, qui sont donc tous très en forme, et donc même s'il n'y a que 30 joueurs, les points mondiaux doivent être presque majorés et pas minorés par le fait qu'il n'y ait que 30 joueurs. Les Elevated Tournament, vous avez effectivement, vous pouvez être invité déjà au Tour Championship, il n'y a pas d'invitation de sponsor. Là, vous pouvez être invité, vous pouvez avoir bien joué la saison d'avant et être complètement aux fraises cette année et jouer ces tournois-là. Ça n'a pas du tout la même valeur. C'est là où, de toute façon, tout le système du classement mondial est à revoir et au-delà de ce qui se passe sur le livre, et les Européens s'en sont suffisamment plaints pendant longtemps. Là, il n'y a plus rien qui va. Et là, maintenant, on voit les majeurs qui sont obligés de distribuer des invitations. Alors, moi, je dis très bien pour le golf. À ce moment-là, qu'on fasse un truc un peu officiel. Ils n'ont qu'à donner 5 invites aux leaders du livre de l'année d'avant, plus 2 invites pour les leaders de l'année actuelle, s'ils veulent, ou alors 2 et 2, j'en sais rien. Juste pour éviter qu'on ait des joueurs qui cartonnent. Même Taylor Gooch, même si ses propos étaient complètement à côté de la plaque, même s'il a été défendu par McIlroy, parce qu'effectivement, la question était un peu piège. Taylor Gooch, l'an dernier, quand il envoyait des victoires et des scores incroyables sur le livre.
Il n'avait pas pu aller jouer l'US Open pour un changement de règle hasardeux au
exactement,
dernier moment.
Exactement, on a envie de le voir.
Qui a dit que si McIlroy gagnait, il y aurait une Astérix parce qu'il n'était pas là.
Ce qui, au passage, est complètement stupide. Hein, mais voilà, on a envie de voir les meilleurs joueurs s'affronter. Et aujourd'hui, quelque part, toute cette lutte un peu triste dans le golf mondial ne fait que renforcer les majeurs à condition que tous les meilleurs s'y affrontent.
Et ce qui est, c'est apparemment en plus la guerre est repartie de plus belle. Enfin, il y a eu des annonces apparemment sur le livre comme quoi c'était fini. Ils allaient rester entre eux, continuer à débaucher des joueurs.
La fusion entre le livre et le PGA Tour.
Que c'était tout pour le livre maintenant. Ils ont dit qu'ils arrêtaient le combat pour les points mondiaux. Donc on a l'impression que la fracture est de nouveau béante et que c'est reparti. Et voilà, la prochaine étape, c'est Rory ou pas Rory, quoi.
Ouais, justement, on évoque le League Golf, hein, cette réaction de Paul Hezinger qui carrément lui disait que bah, finalement le PGA Tour, au fil du temps, devient finalement le vivier du League Golf, quoi.
C'est un peu dur de le dire comme ça, mais si on regarde objectivement, c'est pas complètement
le
faux.
Le coup de rame a été quand même un gros coup de la part du League Golf, un gros coup dur pour le
prochaine étape,
PGA Tour,
c'est McIlroy. Hein,
évidemment, McIlroy, moi, je parierais pas contre le fait que McIlroy aille sur le livre. On voit à quel point il a changé de discours. De ce que je comprends, ses amis d'avant, ses meilleurs amis comme Tiger Woods notamment, qui lui reste très très ancré de manière très virulente contre le livre et pour le PGA Tour. Ils se sont un peu éloignés, il a quitté le board, il a même quitté le groupe WhatsApp des joueurs, enfin voilà, donc on voit que McIlroy s'est éloigné un peu de tout ça. Effectivement, il y a semble-t-il eu une réunion en marge de Jeddah pour tous les joueurs du livre avec les dirigeants pour dire bon bah le PGA Tour c'est fini, on ne fera pas de deal. Mike Weir a annoncé depuis aussi que dans l'équipe internationale il n'y aurait pas de joueurs du livre
pour la Presidents Cup.
Ce qui veut donc dire que une fois de plus les internationaux vont se prendre une petite fessée à la Presidents Cup, ce qui ne manquera pas de décrédibiliser ce grand rendez-vous qui par ailleurs est un de ceux qui a le plus de valeur dans le portfolio des tournois du PGA Tour. Donc
c'est possible, Rory, sur le livre.
Ah, moi,
c'est plus
crois,
impossible comme il y a 6 mois. Quoi.
On sent quand même que les choses, même si la fracture est béante, on sent quand même que les choses bougent et que ça va pas durer. C'est un peu le pari qu'a fait Rahm, et c'est peut-être le pari qu'a fait McIlroy en se disant bah, je vais prendre une grosse somme maintenant, de toute façon,
qui peut-être ne sera plus là, ou peut-être qu'il ne sera plus là dans 2-3 ans. Donc autant,
il peut jouer les grands chelems. Ouais. Et puis quelque part, on a vu Sergio Garcia qui veut retourner jouer le tour européen. Il joue le tour asiatique, les autres, ils vont peut-être jouer le tour européen. Rory McIlroy, à la limite, il va se dire bah, tant pis, je jouerai plus le PGA Tour, mais je jouerai le tour européen parce que je pense que. Rory McIlroy, je vois pas comment ils vont pouvoir lui interdire de jouer le tour européen. Honnêtement, ce serait quand même,
oui, c'est ça.
Ce serait quand même suicidaire. Donc il se dit, bah, je vais aller prendre mes 500 ou mes 600 ou mes 700
millions.
Comme les autres.
Comme
Rahm. Je vais jouer le tournoi du Grand Chelem. Je vais m'ennuyer parce que je pense que Rahm, il s'ennuie sur les tournois du livre. Je pense qu'ils s'ennuient tous sur les tournois du livre quand même. Ces tournois à 3 tours, machin. Bon, ok, il joue au golf, mais enfin. L'ambiance et la tension n'est pas énorme. Et Rory se dit, bah, de toute façon, je vais.
L'ambiance peut-être pour Jeddah, mais quand
on voit
les tournois aux États-Unis ou même Adélaïde, oui, l'ambiance est quand même.
Oui, il y a de l'ambiance, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de tension. On sent pas une
animosité. Ah, je suis pas sûr quand même.
On sent quand même
que par équipe, il se passe quelque chose. Hein. Les joueurs, ils sont quand même dedans. Hein.
Oui, c'est beaucoup dénigré. Effectivement, moi, je pense qu'il y a un vrai concept. Autant il y a plein de défauts, notamment dans le packaging du livre. Autant il y a aussi des choses qui marchent. Mais je pense qu'effectivement, il y a un moment, il y a un breaking point. Rahm, c'était déjà quasiment le breaking point. Au bout d'un moment, si vous ajoutez Rory. Le problème, c'est quelle est la réponse du PGA Tour. Ils ont déjà augmenté les dotations massivement. Ils ont signé un deal pour vendre une partie du PGA Tour à un fonds d'investissement pour donner des parts de cette nouvelle société aux joueurs. Si malgré tout le PIF continue d'attirer des joueurs, il y a un moment, quelle autre solution que vous avez de dire on dépose les armes, les joueurs du livre sont éligibles, ils peuvent de nouveau jouer sur le PGA Tour, tant pis, on sauve les meubles. Parce qu'en fait, sinon, c'est la mort assurée pour les tours réguliers dans la voie dans laquelle on est. Et d'ailleurs, on voit qu'en face, l'ATP n'a pas du tout eu la même attitude que le PGA Tour. Ils ont vu arriver le PIF, ils ont dit oui, pas de problème, on fait un deal, comme ça, on est sûr qu'ils ne vont pas monter un circuit parallèle à côté pour faire exactement la même chose qu'avec le Live. Et ça restera l'erreur fatale et du DP World Tour et du PGA Tour.
Mais c'est là aussi où l'ATP, il n'y a qu'un organisme, là où il y a le Tour européen. Y a le, voilà,
c'est vrai que c'est plus compliqué. C'est vrai que c'est plus compliqué. C'est bien pour ça que les Saoudiens en ont profité.
Mais encore une fois, Monahan et Pelé n'ont pas été bons. Ça, c'est une certitude que le PGA Tour et le Tour européen n'ont pas été bons du tout.
Et surtout, on se demande aussi.
Parce qu'on ne parle pas golf depuis. C'est ça, ça fait une demi-heure qu'on est là.
C'est assez fou quand même. Je regardais, vous savez qu'aujourd'hui sort Full Swing la saison 2 sur Netflix. Donc j'ai, avant de vous rejoindre, j'ai regardé une grande partie du premier épisode. Enfin, je veux dire,
c'est bien ou pas?
C'est génial, honnêtement.
Premier épisode avec qui, du coup?
Alors le premier épisode, il est vraiment autour de Masters, la lutte PGA Tour Live, l'animosité entre Rory, Justin Thomas, Koepka, Mickelson, etc. Mais c'est flagrant, c'est-à-dire qu'on démarre la saison, est-ce qu'on la démarre vraiment sur du sport? Non, pas vraiment. En fait, l'histoire, c'est la guerre.
On a l'impression que c'est la suite de la fin de l'épisode de la saison 1, finalement.
Exactement. Et ça montre bien l'actualité qu'on a aujourd'hui sur le golf mondial. C'est plus de l'actualité pour la chaîne CNBC, pour les chaînes économiques, que pour.
On a parlé de business.
On peut se demander aussi si le PGA Tour fait encore rêver, parce que quand on regarde les noms qui ont gagné les premiers tournois cette année et l'année d'avant, l'année dernière, c'était trois fois Jon Rahm, Justin Rose, Scottie Scheffler, Max Homa, Siwoo Kim. Cette année, à part Wyndham Clark et Matsuyama, on a des rookies, Nick Delap, Grayson Murray, Jack Napeu, Mathieu Pavon, tant mieux pour la France, mais aussi ce week-end dernier, Austin Ekroak.
Je l'ai dit la semaine dernière, il y a toujours des histoires humaines derrière. On aime bien que les
stars, mais c'est moins clinquant que l'année dernière.
Oui. C'est un peu trop. C'est un peu trop, c'est sûr, et c'est moins clinquant que l'année dernière. Mais il y a quand même toujours, c'est quand même, il y a quasiment que des belles histoires quand même à chaque fois. Donc
ouais, mais les audiences sont pas bonnes. Ah bah, ça, enfin, je veux dire, la situation, ah, ça, elle est quand même.
Ça intéresse surtout les spécialistes, ça c'est sûr.
La situation est critique. Et comment le PGA Tour va pouvoir justifier les montants demandés à tous les partenaires aujourd'hui, vu ce qui se passe dans les tournois avec des audiences qui sont assez catastrophiques, hein, quand même. Et encore une fois, tout ça est dommage. Alors, c'est pas comme si le Live pendant ce temps-là faisait des millions de téléspectateurs non plus. Hein. C'est des tournois hyper confidentiels. Mais in fine, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire et c'est ce qui nous chagrine, je pense, tous. C'est que, in fine, il n'y a jamais eu autant d'argent dans le golf et le golf professionnel n'a jamais été dans une situation aussi critique. Et c'est ça qui est terrible. Et j'ose espérer qu'à un moment, quelque chose va se passer tout là-haut chez les dirigeants du golf mondial.
Mais on a l'impression qu'ils creusent chaque jour un peu
plus. Au lieu de se rapprocher, on a l'impression qu'ils s'éloignent encore plus. Quoi.
On a vraiment l'impression que c'est de l'ego. Enfin, pour moi, la décision sur la President's Cup, elle est vraiment stupide. C'est un tournoi qui a un problème de compétitivité depuis des années. Les Américains sont systématiquement plus forts. Qu'on s'est relativement serré, déjà, on est content. Qu'on s'est pas fini au bout de deux jours, on est super content pour la President's Cup. Là, qu'est-ce qu'on fait? On dit à Mike Weir, tiens, tu vas surtout annoncer qu'on prend pas de joueurs du Live. Hein. Oui, super, ok. Sauf que bah, y a quand même beaucoup de joueurs potentiellement éligibles pour l'équipe internationale dans le Live. Et donc bah, là, on scie vraiment la branche sur laquelle on est assis. C'est un des tournois les plus, je le disais, qui a le plus de valeur pour le PGA Tour. Bah, il va être encore plus nul que d'habitude. Ah, c'est quand même terrible.
Allez, justement, PGA Tour cette semaine, Elevated Tournament, Bale, Arnold Palmer, Invitational, tournoi mythique hein, du PGA Tour. On retrouvera justement, du coup, Elevated Tournament, un gros champ, des gros joueurs. L'audience va être au rendez-vous, sûrement, on espère.
Ouais, enfin, il n'y a pas plus gros, mais il n'empêche qu'il y a beaucoup d'absents. Encore une fois, il y a tous les absents du Live, donc on est même sûr que les audiences, en tout cas, seront moins bonnes que les autres années, ça c'est sûr.
Ouais, alors, si vous voulez vraiment que je vous dise ce que je pense de ces signature events, juste d'un point de vue business, on fait ces tournois-là pour s'assurer que les meilleurs vont jouer ces tournois-là. Mais sauf qu'en fait, là où c'est un peu stupide, c'est que Bale, le Mémorial, c'est des tournois qui n'ont jamais eu de problème pour avoir des champs de classe mondiale. Donc en fait, pour moi, ça
parce
sert.
Que prestige du tournoi.
Parce que le prestige
bah oui,
est là.
Parce qu'on vient jouer sur les terres de ouais. Palmer, on vient jouer sur les terres de Nicklaus.
Et donc je me dis, bon bah là en fait, le tournoi il coûte deux fois plus cher qu'avant, mais quel est le bénéfice au final? Alors il y a moins de joueurs, du coup c'est quelque part, bon bah on voit moins de joueurs, même pour les spectateurs sur site c'est moins bien. Honnêtement, c'est un truc beaucoup plus gros avec beaucoup plus d'argent et qui, pour moi, a peu de bénéfices pour les fans.
En fait, le bénéfice, c'était de dire aux joueurs, on va vous donner plus, au meilleur, on va vous donner plus d'argent, restez chez nous. Quoi.
Oui, exactement.
Mais moins pour l'expérience spectateur
et tout.
N'allez
pas sur le Live, quoi. Mais sauf que bah, ça marche pas. Ça suffit, encore une fois, on n'arrête pas de le lire. Les moyens sont tellement disproportionnés entre le PGA Tour et le Live que les joueurs, au bout d'un moment, bah, ça ne leur suffit pas ce qu'on leur propose. Ils vont sur le Live. Quoi. Voilà.
Alors, quand on pense Bale, on pense forcément Tiger Woods. Hein, Tiger Woods, 8 fois vainqueur.
Ah mince, c'était la seule réponse que j'avais dans le quiz.
Ah, mais dans le quiz, il n'y avait pas cette question.
Bah, ouais, c'est bien dommage. Alors déjà que je vais me faire humilier par Sébastien. Alors,
non, mais ça reste pour moi un des plus grands. Ben, dans ce que j'ai commenté, bon, notamment Bale 2008, quand il rentre ce pote. Après 2009, il fait un retour face au pauvre Sean O'Hair qui se fait complètement laminer dans la dernière journée. C'est vraiment une remontada absolument exceptionnelle. Oui, il y a eu le duel aussi avec Mickelson quelques années plus tôt. Oui, ça fait partie de ces grands moments avec le Mémorial. Mais c'était
faire un quiz avec lui, moi.
Mais c'était ça, c'est ça qui est fort. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que c'était le tournoi d'Arnold Palmer.
Je donne ma place
avec Tiger Woods.
Parcours mythique, pas tant que ça.
Alors, parcours mythique parce que Arnold Palmer, parce qu'il y a des trous mythiques. Bon, on se souvient de DeChambeau qui essayait de driver. J'ai oublié le nom du. Il y a beaucoup de trous en dogleg. Le 6, effectivement. Je crois que c'est le 6.
Merci, Hugo.
À côté de ça, ça reste.
Parcours à l'américaine. Bah,
disons que si
avec
je devais
de l'eau,
partir aux États-Unis là, pendant 6 mois, jouer tous les plus beaux parcours, ce ne serait pas au sommet de ma liste non plus le parcours de Bale. Mais on va dire qu'il est devenu mythique à cause des événements qui ont eu lieu. Sur
oui,
ce parcours.
Et puis parce que Arnold Palmer, qui est quand même Monsieur Golf aux États-Unis et Monsieur
exactement.
Golf mondial. Enfin, si le golf en est là aujourd'hui, bon, on l'a dit, c'est pas très bien, mais en tout cas, c'est Arnold Palmer qui a fait exploser le golf. Donc, on allait chez Arnold Palmer et en plus, il faut quand même reconnaître que c'est le mec le plus sympa, probablement, du golf mondial pendant des années. Et lui, contrairement aux autres, enfin, peut-être Tiger, mais et ceux qui arrivent après, lui, il a rendu au golf, mais comme comme personne. Donc voilà, donc tout le monde se sentait, c'est ce que disait Sébastien, tout le monde se sentait obligé d'aller chez Arnold. Enfin, voilà, vous ne pouviez pas.
C'était
ne
le
pas
passage obligé dans une saison.
C'est comme aller chez Nick Lowe. Enfin, c'est les deux monstres sacrés du golf américain et du golf mondial. Ne pas y aller, c'est cracher dans la soupe et cracher dans l'histoire du golf.
Ouais, c'est des tournois qui avaient déjà été sanctuarisés, hein, qui étaient des invitational, donc avec déjà des champs avant un peu réduits et qui donnaient plus d'exemptions en cas de victoire qu'un tournoi normal. Donc, pour moi, c'est un peu ubuesque de.
C'était le cercle vertueux. Voilà.
Globalement, de toute façon, c'était le calendrier Tiger Woods. Hein. Les Elevated Events, c'était le calendrier Tiger Woods. C'est assez simple.
Allez, messieurs, petit quiz Bale. Vous avez peur, Arnaud ?
J'ai pas révisé du tout.
Question facile pour commencer. Quel est le nom complet du parcours où se déroule l'Arnold Palmer Invitational ?
Le Bale Golf Club and Lodge.
Première bonne réponse.
Première humiliation.
Tiger Woods a gagné 8 fois, on l'a dit.
Ouais, ça, je l'avais.
Ouais, ça. Alors, qui est derrière lui en termes de multiples victoires ?
Palmer ?
Non.
Jack Nicklaus ?
Non. Alors, il y a 6 hommes à 2 victoires.
Ah ouais, ouais. On est dans.
Alors, okay. Jerry Heard, Gary Koch, Tom Kite, Lauren Roberts, Ernie Els et Matt Avery.
Super. Voilà.
Ah ouais, Matt Avery a gagné 2 fois. Ouais. Ouais,
2014 et 2015, doublé même.
Ouais, j'allais le dire.
Alors, question pour Arnaud. Quels sont les ingrédients ?
Il y a 18 trous.
Quels sont les ingrédients pour faire un Arnold Palmer ?
Ah oui, il y a de la pêche ?
Non.
Non.
Non, c'est moitié limonade, moitié thé glacé, c'est ça ?
Bonne réponse. Alors, la version John Daly, on rajoute de la vodka, je crois.
Ouais, c'est la version pour Arnaud. Ouais,
question, quel est le tenant du titre ? Alors, c'est un joueur qui avait marqué le Tour européen et surtout les Q-School. Parce qu'il avait remporté les 3 séries des Q-School avant de s'imposer à l'Afrasia Mauritius Open après. Et après, il est passé sur le
PGA. C'est dommage, Arnaud. Là, c'était l'occasion.
Ouais, c'est des indices.
C'était l'occasion de l'apprendre.
Américain.
Je suis nul en quiz, moi. Ah, Hugo.
Ouais, Kurt Kitayama.
Ah oui, bien sûr. Ah, ouais, je l'avais oublié.
Alors, autre question. Il n'y en a plus que 2, Arnaud. Le calvaire est bientôt terminé. Quels sont les 3 joueurs du livre à s'être imposés à Bale ?
Mickelson.
Ouais.
Ouais.
Alors, Mickelson.
Watson ?
Non.
Pouba ? Koepka ?
Non.
Non.
Joueur anglais ?
Rose ?
Non.
Ah bah non,
il n'est pas joueur du livre. Non. Joueur anglais qui a rejoint le livre récemment.
Hatton.
Tyrell Hatton. Et un Australien qui est aussi sur le livre, du coup.
Leishman ?
Mark Leishman. Bravo, Hugo. Incollable.
On était nuls, là, en fait. Hein.
Nul. Alors, et dernière question, ça, c'est pour Arnaud. Ça, je suis sûr que c'est pour Arnaud. Arnold Palmer avait gagné combien de majeurs ?
9.
9.
Alors, c'est 7.
Ah ouais.
4 Masters, 1 US Open et 2 British. Voilà, bon. Arnaud, vous allez réviser.
Je suis honteux. Hugo, on coupe au montage. Hein.
Allez, messieurs, on va ouvrir maintenant notre page LPGA. Victoire d'Anna Green à Singapour la semaine dernière avec un sublime birdie au 18 hein, pour gagner d'un coup.
Birdie qui
pas nous, seulement
qui nous a parce arraché le cœur. Hein.
Calmez-vous, Arnaud. On va laisser Sébastien qui a commenté raconter ce qui s'est passé.
Birdie 17, birdie 18, un final, si je peux m'exprimer ainsi, schwarzelien de Anna Green pour aller s'imposer. Et c'est là où pour... Effectivement, on est triste pour Céline Boutier, mais dans ces cas-là, je veux dire, qu'est-ce qu'elle peut
rien
se reprocher ? Green fait un
pas un bogey
absolument époustouflant.
Pas un bogey pour Céline dimanche.
Sur des trous qui sont quand même extrêmement difficiles, le 18, vraiment un enfer. Le 17, long par 3 avec une position de drapeau diabolique. Elle va chercher le birdie. Elle attaque le par 5 du 16 en 2, prenant tous les risques. C'est vraiment magnifique ce qu'elle a fait. Donc effectivement, il y a sans doute un peu de déception pour Céline Boutier, mais elle joue très bien. Elle n'en pas douté.
Son meilleur tournoi de l'année, hein, parce qu'elle avait démarré un peu timidement sa saison. Là, on sent que ça y est, tout est en place pour Céline. C'est parti. On l'a vu faire une belle semaine.
Oui, une belle semaine, un beau tournoi, je trouve, sur un parcours qui comme ça semble parcours typique de resort, mais qui est un vrai. Qui a une vraie stratégie golf derrière ça, avec des par 5 sur lesquels il joue
à Sentosa.
À Sentosa, sur le parcours le moins connu des deux, le Tanjong.
Le retour avait l'air bien costaud. Quoi.
Ouais, bien costaud, mais en même temps, voilà, on peut faire birdie sur tous les trous aussi. Donc je trouvais que la difficulté, l'aspect stratégique était vraiment intéressant. Et puis on voit surtout l'incroyable densité qu'on a aujourd'hui sur le LPGA avec...
Votre top 3 là, de la semaine, vous avez commenté la semaine dernière. Votre,
top 3 des, ouais,
Des joueuses ou de,
alors,
de...
C'est difficile de ne pas mettre Anna Green. C'est une Boutier qui envoie un 64 lors du deuxième tour qui est absolument exceptionnel avec 22 potes seulement. Et puis la tenante du trite, hein, Jin Yunko, qui tient tout au long de la semaine, qui était quand même pas très loin de faire la passe de 3, ce qui est quand même assez exceptionnel aussi. Vraiment assez enthousiasmé de mon côté par la qualité de ce tournoi tout au long des 4 tours, d'autant qu'on a évité le mauvais temps, ce qui était la grande crainte que l'on pouvait avoir au début de la semaine.
Tous les tours ont été avancés pour justement éviter les orages et les intempéries.
Je voulais intervenir.
Vas-y,
Jean-Philippe. Non, mais parce que
il y a pas de quiz là pour l'instant.
Non, Céline, en plus d'avoir perdu le tournoi, enfin de ne pas l'avoir gagné, a perdu la place de numéro 1 mondial.
C'est vrai. Elle avait une occasion en or de passer numéro 1 puisqu'il fallait que
en cas de victoire,
Lilia Wu finisse 26e ou pire dans le tournoi et elle a abandonné lors de la dernière journée. Donc effectivement, en cas de victoire, elle passait numéro 1 mondial, ce qui était quand même un événement pour nous Français.
Et alors, comme toujours, le mystère, Sébastien. Moi, je voulais te poser la question au célèbre Nosferatu sur Twitter qui connaît tous les classements mondiaux. Et vous avez dit, pas besoin, j'ai calculé.
Ah non, alors sur l'aspect numéro mondial, oui. Bon, après, c'était dans les notes du tournoi. Hein, j'avais pas fait moi-même
vous
le calcul.
Vous avez lu,
j'ai lu que, bon, en plus, ils l'ont même affiché un moment à l'antenne lors de la dernière journée. Mais on l'avait dit avant, quand même.
D'accord.
Non, après effectivement voilà, bon, c'est les mystères des dividers et du nombre de tournois joués avec un roulement sur 2 ans. Bon, effectivement, je pense que mathématiquement parlant, il n'y a que ce bon vieux Nosferatu pour y comprendre quelque chose. Mais voilà, pour le coup, c'est vrai que ça aurait été un double événement assez fabuleux pour le golf français. Mais c'est partir mieux.
Exactement.
Alors, vous avez l'info pour cette semaine ou pas, Sébastien? Non, vous n'avez pas regardé les notes encore. Savoir ce qu'il fallait à Céline Boutier pour passer numéro 1.
Je vais regarder les notes.
Ah oui, c'est vous qui commentez cette semaine.
Exactement, avec Florence Lejacques Rossari.
Et Joséphine Lima.
Et Joséphine Lima qui fait ses grands débuts.
Qui fait ses grands débuts vendredi matin parce que Florence ne peut pas commenter. Donc c'est Joséphine Philippe ou Philippe dit Joséphine Philippe qui la remplacera.
Le franco-portugais. Voilà, justement, cette semaine, direction la Chine, c'est le Bluebell PGA. Hein, on va retrouver justement Céline Boutier, Agathe Lenné et des joueuses comme Ayaka Furue ou Lydia Ko, leader de l'ordre du mérite. Et Lydia Ko, il lui suffit juste un point pour rentrer définitivement dans ce fameux Hall of Fame. Lydia Ko qui avait gagné en début de saison, qui avait fini deuxième derrière, même qui avait perdu en playoff face à Nelly Korda. C'est un super début de saison aussi pour Lydia Ko.
Bah oui, effectivement. Alors, elle a pas très très bien joué pour le coup à Sentosa, à Singapour, le dernier point, je suis prêt à parier qu'elle l'aura cette saison à n'en pas douter. Mais encore une fois, c'est ça qui est intéressant. Enfin, je veux dire, les tournois ont vraiment été de grande qualité avec des scénarios incroyables. Le playoff, on en parlait, Cordaco exceptionnel. On a là ce qui s'est passé à Sentosa. On a les...
Et bien avant le playoff, je te coupe, Sébastien, de ce playoff entre Lydia Ko et Nelly Korda, c'est le scénario d'avant où Nelly Korda doit faire birdie.
On sent celui qui a commenté.
Elle doit faire eagle birdie pour revenir à égalité et forcer le playoff et gagner derrière. Bref.
Non, mais parenthèse, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer sur
PGA, Journal du Golf TV
et
FF
sur
Golf
Journal
TV.
Du Golf TV, FF Golf TV, évidemment. Mais je veux dire, on a les anciennes qui sont toujours là, qui peuvent toujours gagner les tournois, qui peuvent toujours briller. On a toute une nouvelle génération qui arrive, qui ne cesse de se renouveler. Et tout ça est assez fabuleux pour le golf féminin. J'espère juste que, contrairement aux hommes, elles arriveront peut-être à se mettre d'accord entre le Ladies European Tour et le LPGA. Désolé de revenir au business, mais on sait que la fusion a été bloquée par les Saoudiens qui voulaient pouvoir mettre leur grain de sel là-dedans. Voilà, j'espère juste qu'on ne va pas partir dans une deuxième guerre où Aramco, par exemple, investirait massivement sur le Ladies European Tour juste pour embêter le LPGA. S'il vous plaît, pour le bien du golf, mettez-vous d'accord, travaillons en bonne intelligence. La qualité du golf qui est pratiquée sur le LPGA mérite ça.
D'ailleurs, messieurs, retour en arrière sur le PGA Tour. On n'a même pas parlé de Mathieu Pavon, qui sera là cette semaine.
Quand il fait top 30, ça nous intéresse plus.
Ouais, semaine correcte aussi pour Victor Pérez la semaine dernière.
Plus que correct, il a été en tête du tournoi. Mathieu a été dans le top 10. Voilà, là aussi, Nosferatu était, il disait, mais c'est pas possible, il y a des Français partout. Il y avait aussi Martin Trainer qui était bien classé. Bah ouais, on le sait, de toute façon, on n'arrête pas de d'en parler depuis le début de l'année. Les bons résultats entraînent les bons résultats. Dans le dernier numéro de Journal du Golf, là, donc il y a la couverture.
Et on va le montrer. Hop.
Il y a Romain Lefebvre qui avait eu tous les joueurs français qui revenaient sur les exploits de Céline Boutier l'année dernière. Bah, Mathieu Pavon dit que ça l'avait impressionné, ça l'a inspiré. Et ben, Victor Pérez, on peut le penser, jusque-là, tous les journalistes français lui disaient, l'embêtaient, alors quand est-ce que vous avez... Ben, maintenant, il est tranquille parce qu'il a Mathieu Pavon, ça lui sert de locomotive.
Il peut se cacher un peu derrière Mathieu Pavon et en tout cas ne moins avoir la pression.
On sait très bien qu'en sport, voilà, les micros qui se tendent, ça énerve toujours. Et, enfin, en tout cas, c'est jamais un bien, enfin, c'est rarement un bien. Bah là, visiblement, Victor Pérez, c'est sûr que ça le motive.
Les micros qui se tendent, ça veut dire aussi que vous jouez bien au golf.
Oui,
et que
mais
ça se
sauf, que là, sauf que là, les micros se tendaient parce que c'était le seul Français sur le PGA Tour, le seul qui était dans le top 100 mondial ou dans le top 50 mondial et qu'on lui disait alors, hein, c'est vous le prochain, c'est vous celui qu'on attend.
Et puis il y avait la pression de la Ryder Cup qui l'avait un peu.
Maintenant, on le laisse tranquille, maintenant, Mathieu Pavon, et visiblement, ça le sert. Et en plus, c'est toujours pareil. Ce sport est excessivement mental. Bah, Mathieu Pavon, il a fait tomber des barrières, et y compris pour Victor Pérez, qui se dit voilà, ce que Mathieu Pavon a fait, je suis capable de le faire.
Oui, et puis c'est quelque chose, je crois effectivement qu'il y a l'importance de l'exemple, de se dire bah, tiens, bah, il l'a fait.
Donc
bah,
pourquoi moi, pas moi quoi.
Ouais, je le connais, on joue ensemble, je l'ai battu plein de fois, et là je vois qu'il est au top. Et ça, ça change complètement la dynamique. C'est ce qu'on a vu aussi en NBA, quand Tony Parker, d'un seul coup, était leader d'une équipe qui gagnait le titre NBA. Je pense que tous les joueurs en France se sont dit bah, pourquoi pas nous du coup, et ça a cassé beaucoup de barrières, et la force de l'exemple est incroyable. Et quand je vois justement, pardon de revenir à l'NBA, vous savez que c'est aussi mon autre passion dans la vie.
Votre mais première dire, passion même.
Mais je crois qu'on pourrait voir exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, bah, le golf français va envoyer de plus en plus de joueurs et de joueuses sur le LPGA, sur le PGA Tour, avec des résultats qui ne vont avoir cesse de s'améliorer, parce que c'est un cercle positif qui s'auto-entretient. Quoi. Et avec cette force de l'exemple, tous les joueurs et joueuses françaises vont pouvoir se dire... Mais moi aussi, je peux aller gagner un gros tournoi sur le PGA Tour ou sur le LPGA.
Alors Arnaud, avant de démarrer ce volet, de reprendre le volet LPGA, vous nous avez concocté un petit quiz bonus, rien que pour vous, rien que pour nous.
Deux quiz
dans une émission, une première mondiale.
Ouais, j'ai vu passer une photo la semaine dernière et elle m'intéressait grandement. Je me suis dit, tiens, bah...
Elle a passé dans la rédac, d'ailleurs.
Elle est passée dans la rédac. On la voit là, à l'antenne, la photo. Alors, messieurs, qui sont ces deux joueurs? Jean-Philippe, bon, commencez.
Sur la droite, Montgomery.
Ouais.
Ouais.
Sur la gauche, alors, moi, j'ai trouvé, mais Sébastien, je pense que...
Non, Jean-Philippe, c'est
moi,
qui,
alors? Moi, je pense qu'il faut regarder le bob, et je pense que c'est Lionel Alexandre.
Et vous, Sébastien, c'est qui?
Ah ouais, j'aurais dit Ola Sabal, mais j'ai pas bien regardé le bol.
Là, parce qu'on voit sur le bol.
Alors,
le
je sais pas que il y a rien du tout sur
mais
le
si,
bol, Jean-Philippe.
Il n'y a pas le logo de l'Olympique de Marseille.
Donc, c'est José Maria Ola Sabal, Jean-Philippe. Vous êtes.
C'est pas du tout Lionel Alexandre.
Non, c'est pas du tout Lionel Alexandre. Ça fait une semaine.
Donc, j'avais bien vu, c'était bien Ola Sabal. Il ressemblait quand même plus à Ola Sabal.
On va avoir confirmation de ça avec quelqu'un que connaît très bien, Sébastien Audou.
Comment t'as failli?
Donc voilà, alors.
Je me suis complètement piégé.
Ça fait une semaine que vous pensez que vous avez reconnu Lionel Alexandre et son bob.
J'avais l'impression d'avoir vu le bob de l'OM qui portait lors du British 2000 qu'il avait joué.
Alors surtout, donc, on vient de découvrir que Lionel Alexandre et José Maria Ola Sabal sont donc sosies.
Voilà,
et à vous qui avez une ressemblance quand même un petit peu.
Ouais, enfin, vous êtes le seul à avoir vu
une ressemblance avec Ola Sabal.
J'étais tellement persuadé, et Arnaud m'a fait tellement croire que c'était lui que je pensais que c'était lui.
Et alors on revoit la photo. Ola Sabal, Montgomery. Quelle occasion, parce que Lionel Alexandre et Colin Montgomery, ils ont pas dû souvent se croiser quand même. Ah bah, Jean-Philippe.
Un British quoi. Bah, ça doit être un British.
Ouais. On peut revoir la photo.
Quoi, est-ce qu'il y a un indice dans la photo?
Non, il n'y a pas un indice, mais enfin, on voit à peu près quel âge.
Faut dire l'année.
Ouais, l'année, ouais. Si vous l'avez, Sébastien.
British.
Ouais, année 80.
British amateur.
Ah, British amateur.
Ah, British
amateur.
British amateur.
Je sais
pas, 84.
Ouais.
Oh là là, vous avez vu ma fiche? Non, Sébastien, non, mais non, c'est pas possible.
Si, moi j'ai vu.
Moi je m'en vais, moi.
Voilà.
Game over, merci.
Bon, alors, ok, British Amateur 84, okay. Victoire de José Maria Ola Sabal 5 et 4.
Donc, pas Lionel Alexandre.
Pas Lionel Alexandre. Mais alors, après, je me suis dit, c'est aussi ça l'intérêt.
Ouais.
Combien de majeurs à E2?
Ah bah, pour Montgomery, 0.
Il y a deux masters.
Et pour Ola Sabal, 2.
Quelle année?
94 et 99.
Voilà. Combien d'ordres du mérite pour les deux?
Alors, Montgomery, il y en a...
Je crois qu'il y en a 7 de suite déjà.
Oui, j'allais dire, il en a un paquet.
Peut-être 8 en tout.
Ouais.
En fait, c'est un quiz pour Sébastien.
Bah, Jean-Philippe, vous avez le droit
de... Et José Mario Olazabal, bonne question. Peut-être 3. Un ou deux.
Zéro.
Voilà. Ah ouais, il n'a pas gagné même les années.
Il fait deuxième son année de rookie, il refait deuxième, il fait troisième, mais jamais de...
Après, c'est vrai qu'il y a une...
Combien de titres sur le Tour européen?
Wow.
Il a gagné en 2005 aussi. Ouais.
Pour les deux?
Après, c'est 7.
Ah, pour les deux?
Ouais. Allez, 54, 23 pour Olazabal, 31 pour Montgomery.
On n'a même pas le temps de réfléchir.
Bah, non, mais parce que vous avez...
Non, mais là, ça aurait été un peu...
C'est pour accélérer un peu. Combien de titres du PGA Tour pour les deux?
Alors, Olazabal, il doit en avoir 5.
Est-ce que les Masters comptent?
Ouais, bien sûr.
Donc ça fait 2.
Donc 5, je dirais. Non, parce que Olazabal, il a gagné à
6.
Ah ouais, donc voilà, j'en ai oublié un. Il a gagné à Torrey Pines, notamment. Je me souviens, en 2002, je crois.
Il a gagné le Buick Invitational.
Ouais, c'est à Torrey Pines, ouais, 2002.
Et Montgomery?
Et Montgomery, combien?
0.
0.
Bien, bien. Et voilà, Jean-Philippe. Et c'était pour vous aussi. Et alors, combien de Ryder Cup pour les deux?
5.
Ensemble ou pas ensemble?
Bah, combien chacun?
Alors là, les Ryder, je pense que Olazabal, il en a pas mal.
Olazabal,
ouais, je dirais 8.
Et 8 pour Monti et 7 pour Oli.
Ah ouais, c'est beaucoup. Hein. J'aurais pas dit autant, mais c'est vrai que bon, ils étaient dans la période de domination des
Européens. Et donc je
tenais
quand même à dire que Montgomery, il était en passe de battre le record de Faldo et que cet imbécile, comment on l'appelle, Nick Faldo n'avait pas sélectionné Colin Montgomery pour pas que Montgomery passe devant.
En 2008,
ouais, voilà.
Ryder Cup qui avait été marqué par qui?
Anthony Kim.
Par Anthony
voilà,
Kim.
La boucle est bouclée.
Allez revoir le
cas,
match Garcia.
On salue Lionel Alexandre, sosie officiel de José Mario.
Il y a quand même une ressemblance.
Il y a quand même 20 victoires pour Montgomery, aucune défaite en simple et 18 victoires pour Olazabal. Hein,
sur la photo, j'ai l'impression de voir le Bob de l'OM.
Moi je dis pour Lionel, ça se tente. Il met une veste verte, il se pointe. Début avril à Augusta, au dîner des champions, voir si ça passe.
Il fait Olazabal.
Si c'est Jean-Philippe le physionomiste, ça peut passer, mais sinon ça marche pas.
Je m'étais trompé et Arnaud a bien caché ça. Alors Sébastien, c'est l'heure de se quitter parce qu'on va avoir à ta place Vincent Lousteau qui est le coach d'Agathlené. Merci beaucoup Sébastien de toujours ces brillants commentaires
et
ces
les quiz,
analyses.
Et dans les quiz.
Et dans les quiz.
Et dans les quiz.
Incollable. Merci
toujours
beaucoup.
Un plaisir d'être avec vous. Merci. Bye bye.
Voilà, on est avec Vincent Lousteau, donc coach au Racing Club de France de beaucoup de joueurs, notamment d'Agathlené. Agathlené qui va faire son deuxième tournoi de la saison cette semaine en Chine après le Drive-On Championship. Merci beaucoup de venir dans notre studio, Vincent.
Merci à vous.
Est-ce que vous avez déjà des nouvelles fraîches d'Agathe? Comment elle va? Comment se passe son année?
Pour l'instant, elle a raté son premier cut là sur le LPGA Tour.
Au Drive-On Championship. Ouais.
Voilà, où à mon avis, elle avait pas si mal joué que ça, mais elle a raté deux coups qui lui ont coûté très cher. Et le parcours était assez sélectif avec énormément de vent. Et c'est vrai que sur le LPGA Tour, dès qu'on commence à rater un peu trop, on le paye cher. Et donc, elle a raté de deux ou trois coups, je crois, le cut. Ensuite, elle a fait un tournoi pour le LET pour s'entraîner, pour pas qu'elle soit trop en manque de compétition avant que la saison du LPGA reprenne.
Pour avoir du jeu. Pour
voilà,
aller,
c'est
pour,
ça.
Pour
donc j'étais avec
bain,
elle. Ouais. Donc là, elle a fait 18e où elle a pas mal joué. Elle a eu là aussi quelques difficultés à l'entame du deuxième tour, mais elle s'est pas mal rattrapée ensuite. Et donc là, elle est donc partie en Chine. Donc on va voir. Bon, après, c'est un long voyage avec le décalage horaire. Mais bon.
Pour jouer, justement, pour avoir du temps de jeu, elle a décidé d'aller là-bas pour.
Alors pourquoi on a décidé d'aller là-bas? On a
parce
pas mal
comme
hésité.
Vous dites, c'est loin, quoi. C'est,
voilà, c'est ça. On a pas mal hésité. Mais comme c'est loin, justement, le niveau est un petit peu moins bon parce que beaucoup de joueuses font l'impasse sur ce tournoi-là. Surtout qu'elles ont joué là deux, trois tournois
en Thaïlande et à Singapour.
En Thaïlande, voilà, avec sans cut et avec. Un taux de participation moindre puisque je crois que c'était les 70 meilleurs qui jouaient, donc c'était pas mal d'aller jouer et de pouvoir essayer de faire une bonne place alors que les meilleurs n'étaient pas forcément là, quoi. Voilà.
Alors justement, Agathlené, elle avait déjà vécu une année sur le LPGA en 2022.
Elle nous le raconte un peu dans le numéro de journal, le toujours fameux journal du golf.
Hop, ouais. Journal du golf,
voilà, en interview
dans vos clubs. Alors justement, en 2022, ça s'était pas très bien passé. Elle avait raté pas mal de cuts. elle est dans quel état d'esprit? Elle se sent plus forte cette année?
Oui,
mieux armée.
Ça va rien à voir parce qu'en fin de compte, le niveau, la marche entre le niveau amateur, surtout universitaire américain, où ils sont quand même assez choyés parce que le coach il s'occupe de tout, des voyages, des hôtels. Donc là, il a fallu qu'on mette tout en place, toute une équipe.
Parce qu'elle était lâchée un peu dans le grand bain, c'est
ouais,
ça, quand
c'est
elle
ça.
S'est retrouvée
ouais,
sur la PGA.
Exactement, ouais, totalement. Ouais. Donc elle n'avait pas trop de sponsors, elle n'avait pas de préparateur mental, pas de préparateur physique. Elle avait un cadet, mais bon, qui était de niveau moyen. Donc il a fallu qu'on mette tout ça en place. Donc maintenant, elle est beaucoup mieux encadrée. Hein.
C'était trop tôt finalement cette montée sur le LPGA en 2022.
On peut presque dire ça, oui. Ça a été un peu difficile de s'accoutumer à l'ambiance aussi parce que bon, les joueuses, elles sont là, c'est assez individualiste. Mmh. Hein, donc sortant du monde universitaire où elles se connaissent.
C'est plus par équipe finalement.
Ouais. C'est par équipe aussi. Donc la différence était quand même très importante. Et les voyages, la solitude quand même, parce qu'elles sont quand même assez jeunes. Hein, ouais. Et donc le fait de retourner en deuxième division, ça a été un mal.
Ouais.
Voilà, ça a été un mal pour un bien parce qu'en fin de compte, ça lui a permis de s'aguerrir, de reprendre confiance. Elle finit sixième. Elle a fait quand même une victoire, plusieurs deuxièmes places, quelques top 10 avec un jeu assez consistant. Et donc elle a pu plus mûrir.
S'épanouir peut-être plus sur le
voilà,
circuit américain.
Voilà, exactement, ouais. Oui, absolument. Ouais. Et donc, du coup, être mieux aguerri pour cette année. Hein.
Arnaud,
vous espérez quoi pour Agathe, pour cette année, Vincent?
Bon, pour être sincère, le but, c'est qu'elle commence à s'installer sur l'LPGA Tour et donc elle rentre dans les 70-80 premières, au moins dans le top 100, et qu'elle prenne confiance en son jeu. Parce que quand je la vois jouer, elle n'a pas beaucoup à envier au niveau du fond de jeu aux autres. Hein. C'est juste une question de confiance et une question de gestion de parcours, d'habitude de parcours. Comme je disais tout à l'heure, ça se joue à vraiment pas grand-chose. Quoi. Et je pense qu'elle a vraiment les possibilités de très bien jouer. Quoi.
Alors justement, Vincent, vous nous l'avez dit, ça fait 17 ans que vous êtes au Racing. Vous avez coaché David Ravetto, donc ouais. Bon, voilà. Si vous avez Agathe Lainé, si vous l'avez amené sur le PJ Tour, vous êtes
n'importe qui. Ouais.
Voilà, vous êtes un entraîneur expérimenté et talentueux. Ouais, alors comment aller chercher cette confiance? On l'a vu avec Mathieu Pavon, qui on va dire qui explose tout d'un coup au plus haut niveau mondial. On le voit avec Hugo Cousseau, qui tout d'un coup lui explose sur le Open Tour après avoir passé pas mal d'années sur le Challenge Tour. Alors, comment faire pour que Agathe Lainé devienne de cette bonne joueuse à fort potentiel, une des meilleures joueuses du monde?
Mais je pense qu'à un certain niveau, la technique et la frappe de balle sont à peu près identiques pour la plupart des joueurs. Bon, là, j'enfonce une porte ouverte. Ce qui change, c'est vraiment le mental. Je pense que ça, c'est vraiment la clé, et notamment la confiance. Donc, on voit parfois des joueurs éclore d'un seul coup parce que d'un seul coup, ben, ils ont pris confiance en leur potentiel, ils jouent plus libérés, ils ont moins cette retenue et donc du coup, ils peuvent plus exprimer leur potentiel.
Mais comment vous, coach, vous allez le déceler ou le chercher?
Alors, ben, c'est en faisant des tournois et donc à chaque fois en apprenant et puis c'est aussi avec son préparateur mental qu'elle a, avec son équipe, qui va lui permettre de se dépasser et d'aller chercher les ressources nécessaires pour rendre son jeu à un niveau supérieur. Et donc c'est pour ça qu'elle a cette c'est qui est une psy hein, et qui l'aide à travailler, à prendre confiance en elle.
C'est qui?
Alors je sais pas son nom en fin de compte parce qu'Agathe n'aime pas
bravo
trop.
Bravo Arnaud là, c'est okay. C'est okay. La colle. Elle aime pas trop en parler de cet aspect-là. Elle le garde pour elle.
Le garde pour elle. Même avec moi, elle en parle mais sans.
Et c'est elle qui l'a trouvé ou c'est vous l'avez trouvé?
Non, c'est moi parce que moi j'ai un ami qui est pédopsychiatre et qui est un ancien patron des hôpitaux de Paris et qui nous a aidé à trouver cette personne. Pour l'aider. Donc, ça fait, elle avait commencé déjà à travailler avec elle en sa dernière année d'université. Et cette dame, elle peut travailler aussi à distance et elle est très, très compétente. Bon, après, c'est comme pour le swing, hein, le mental. Il faut du temps parce que, si vous voulez, il y a deux choses. C'est faire des coups et après s'installer. C'est pas, vous voyez, McEnroe ou Rahm. Ça se fait sur la longévité.
Et puis après, faire les coups en compétition, sous pression, sur les 9 derniers trous et sur les derniers trous d'un tournoi majeur, comme dirait Tiger Woods.
Ce que fait Céline, là, depuis quelques années, c'est ça, c'est très fort. Hein, c'est d'être régulièrement là, au contact, cumuler ses top 10. Si on regarde Scheffler, le nombre de top 10 qu'il fait, c'est
Scottie Scheffler, qui d'ailleurs vient de la même université que Gaga Kenny.
Oui, ouais. Avec Spieth. Ouais. Spieth, elle le connaît bien parce qu'en plus, elle a fait les mêmes études que lui. Hein. Ils ont fait finance.
Que Jordan Spieth?
Non,
que Scottie Scheffler. Scheffler, d'accord.
Oui, Jordan Spieth, je crois qu'il a fait un an et demi. Hein,
alors justement, Agathe Lainé, nous on l'a vu de temps en temps quand on allait sur le Lacoste Ladies Open de France. Ouais. C'est quoi ses forces sur un parcours? C'est une joueuse qui a l'air assez détendue, qui se prend pas la tête d'apparence.
Ça, c'est une fausse image, en fait, de compte. C'est l'image qu'elle donne, mais au fond d'elle, elle est plus tendue et parfois elle doute de son potentiel. Surtout, dès que vous faites 18 trous, il y a toujours des périodes un peu de creux, quoi. Et donc, quand elle a cette période de creux, elle a tendance à douter assez vite et à ne pas repositiver immédiatement. Et c'est là où elle peut perdre quelques coups, quoi. Il faut vraiment couper le robinet. Et dès que, je crois que Tiger avait une statistique où c'était lui qui avait les meilleurs coups.
Bounce back, là, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, c'est ça, ouais.
Qui rebondissait derrière un mauvais coup, ouais, derrière un bogey.
Exactement,
voilà.
Ouais. Et donc ça, c'est vrai que ça, alors elle s'améliore, mais des fois c'est un peu trop tard et à très haut niveau, on ne peut pas se le permettre, quoi.
Son swing, comment on peut le décrire?
Non, elle a vraiment un bon swing, ça c'est là-dessus. Je crois qu'à chaque fois que je vois des entraîneurs et tout le monde me fait des compliments là-dessus. Elle n'a pas vraiment de coups faibles, elle sait tout faire.
Petit jeu, putting.
Ce qui manque, c'est un petit peu de densité. Peut-être si les putts de 3 à 6 mètres, où je pense qu'elle n'est pas assez bonne, là, elle pourrait s'améliorer pour concrétiser les birdies, quoi. Hein.
Et elle est encore jeune, donc c'est juste le début de sa carrière, c'est ça. C'est sa troisième,
oui,
c'est sa troisième année pro.
Chez les femmes, ça va vite, hein. Vous voyez, plein de joueuses, la thaïlandaise, là, qui était numéro 1 mondial, elle avait 20 ans ou 19 ans. Donc il faut quand même pas trop tarder, parce que chez les femmes, elles arrêtent plus tôt. Souvent, elles veulent avoir des enfants, une famille et tout. Donc il faut, ça va, elle est dans les temps, mais bon, il faut pas, s'endormir.
Vous allez aller la voir sur les tournois?
Oui, alors là j'y vais à Los Angeles, là je pars dans 2 semaines, je vais la voir à Los Angeles, et après je retourne à Los Angeles la revoir au mois d'avril, ainsi qu'un tournoi du Grand Chelem si elle rentre, et après je retourne au mois de juin. J'y vais à peu près 6 à 7 fois par an.
Et quand vous allez sur un tournoi comme ça avec Agathe, qu'est-ce que vous faites sur le tournoi? Qu'est-ce que vous regardez? C'est quoi? C'est les attitudes? Je suppose que le travail technique il est déjà fait, donc
Ouais, alors comme je la vois par exemple tous les un mois et demi, on check un peu les fondamentaux quand même. Ce que je fais, c'est je regarde toutes les profondeurs, notamment avec le trackman, parce qu'en fonction du parcours, l'altitude, pas l'altitude, l'humidité, la température et tout, ça change un peu. Donc on check un peu pour prendre toutes les distances. Et puis après, ben, j'essaye de l'aider aussi mentalement, comme elle a confiance en moi, parce que je l'entraîne depuis qu'elle est...
Oui, ça la rassure de vous avoir sur un... Ouais, d'accord.
Depuis combien de temps?
Ben, elle avait 10 ans, 9-10 ans, donc elle va avoir 25 ans, donc ça fait 15-16 ans, quoi, maintenant.
Et pour vous, il y a une fierté de voir justement l'évolution d'une joueuse comme ça?
Oui, totalement. Quand on voit le parcours qu'on a fait ensemble, et là où elle est arrivée, c'est une grande fierté.
Et vous pensez qu'elle peut gagner sur le LPGA?
Oui. Beaucoup de joueuses peuvent gagner. Je pense que c'est toujours ça. Si elle prend confiance et qu'elle peut jouer son plein jeu comme elle a joué, par exemple, son dernier tour à Rabat, Je garantis qu'on la suit, c'est du très très grand golf qu'elle fait, hein. Très très grand golf.
Alors justement, on parle aussi de Céline Boutier, forcément, oui. C'est un exemple pour Agathe Lainé.
Pour le golf français, je pense que Céline a complètement ouvert les portes. On parlait des joueurs français... Mais je pense que
il y a un avant et un après Evian.
Je pense. On pourrait dire même un avant Céline et après Céline. Hein. Céline a vraiment poussé le golf français. Et ils se sont dit si elle est troisième mondiale, elle gagne un majeur, ainsi de suite, c'est à notre portée, quoi. Et Mathieu Pavon a suivi dans cette direction-là. Et on voit que derrière, ça suit. Et
même dans les clubs, parce qu'on parle évidemment du haut niveau, mais dans les clubs à niveau inférieur, on voit l'influence de ces joueurs-là.
Oui, ça c'est certain, au niveau des jeunes. Parce qu'ils se disent, s'ils sont capables de le faire, pourquoi pas nous, hein. Donc il nous fallait des locomotives. Là, on commence à en avoir. Et ça, c'est très très bon pour le golf français, hein.
Alors justement, on parlait de la saison d'Agathe Lainé. Oui. Quand on a une catégorie comme la sienne, qui vient de l'Epstone Tour, sixième, c'est compliqué de faire le calendrier. On joue ce qu'on peut jouer. Les majeurs, on a pas trop de visibilité. Ça se passe comment ?
Oui, alors bon, c'est sûr qu'elle va essayer de jouer au maximum, mais tout quand même, comme on a fait l'année dernière pour l'Epsom Tour, tout en se préservant quand même un peu de repos, parce que si on joue beaucoup, on peut saturer, et c'est pas forcément la meilleure solution pour avoir des résultats. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est faire 3-4 tournois avec un break d'une semaine, quoi. Une semaine à 10 jours, quoi. Et c'est ce qu'on a fait l'année dernière, ça avait pas mal marché, et je pense qu'on essayera de faire à peu près la même chose, quoi, cette année, quoi.
Eh ben merci beaucoup, Vincent Lousteau. C'était...
On est ravis de vous avoir eu. Oui. C'est pas la dernière fois qu'on vous parle. On va suivre évidemment toute la saison du LPGA sur le Journal du Golf TV et donc les résultats des Françaises notamment et les résultats d'Agathe aussi. Donc on va vous avoir souvent à ce micro et on espère souvent aussi sur ce fauteuil. Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Merci, et justement,
Vincent.
Arnaud, évidemment, le LPGA, c'est à suivre à partir de jeudi à 6...
brillamment commenté.
6h du matin pour ce Blue Bay LPGA avec justement Céline Boutier et Agathe Lainé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Merci Arnaud de m'avoir accompagné, et merci à Hugo à la technique, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.